Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
C'est une première, un journal entièrement généré par une IA et ça se passe en Italie. Pour parler intelligence artificielle, nous serons aussi à Genève avec les interprètes de l'ONU. Également dans cette émission, une visite à l'université de Metz qui propose un diplôme franco-ukrainien en vue de la reconstruction. Bienvenue à tous. Comme le personnage de Molière qui faisait de la prose sans le savoir, nous utilisons tous l'intelligence artificielle, itinéraire routier en temps réel, filtre anti-spam ou encore gestion des photos dans votre smartphone en sont quelques exemples, gentiment fournis par une IA d'ailleurs. En Italie, pendant un mois, le journal milanais Il Foglio publie un supplément de 4 pages entièrement conçu donc par une intelligence artificielle. L'expérience a pour but de faire réfléchir la rédaction aux possibilités offertes par l'outil et ses lecteurs à l'impact de l'IA dans nos vies. Reportage Olivier Bonnel.
Comme chaque matin, Marina et Stefania, journalistes à Radio Vatican en italien, ont préparé leur revue de presse. Et comme depuis plusieurs jours, elles ont feuilleté Il Foglio et son supplément inédit de 4 pages, une vingtaine d'articles, tous écrits avec l'aide de ChatGPT. Marina nous décrit le journal.
Ça, c'est l'édito fait par l'intelligence artificielle. Défense de la liberté, soyons sérieux. Pourquoi un électeur de droite italien devrait avoir peur de la droite trumpienne? Et là, on a l'éditorial de Claudio Serrazza. Une droite libérale, anti-Trump, pro-Europe et non complotiste. Les thèmes sont les mêmes, mais la façon de les traiter est complètement différente.
Pour Stefania, l'exercice d'une revue de presse avec des articles entièrement rédigés par un algorithme est une première dans son métier.
C'est un peu troublant. Savoir qu'un article a été écrit par une intelligence artificielle et pas par un de tes confrères, c'est un peu désarmant. Mais c'est aussi une confrontation intéressante pour comprendre certaines limites. L'IA, tout le monde le dit, peut être une grande aide, mais en même temps, c'est un frein à la créativité, à la connaissance, à tout ce qu'on sait. Quoi qu'il en soit, c'est un débat utile et cette expérience du Foglio sera sûrement positive.
Veramente qualcosa di positivo.
Claudio Cerasa, le directeur du Foglio, est à l'origine de cette initiative pas comme les autres. Nous le retrouvons derrière son bureau, vérifiant la mise en page des derniers papiers du jour, des articles sur Vladimir Poutine, Elon Musk ou encore l'économie italienne, entièrement générée par l'IA. Il explique la genèse de ce projet.
Pourquoi on s'est lancé? Pour deux raisons. La première, c'est que l'on est un journal optimiste qui mise sur l'innovation et nous n'avons pas peur de l'avenir et on doit regarder l'avenir en face. La seconde raison est que l'on est un journal qui peut se le permettre, un quotidien créatif avec des articles originaux et on a la prétention de penser que l'intelligence artificielle ne peut être aussi forte que nous.
Tous les jours, à 18h, 2 heures avant le bouclage, le patron du Foglio demande à ChatGPT de lui créer des articles. Il lui fournit les thématiques, les angles de traitement et quelques indications de style et laisse faire la machine.
La charte graphique est la même. Ce qui change, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas les signatures. Chaque article est reconnaissable car il est mentionné qu'il a été généré grâce à l'intelligence artificielle. Il y a un éditorial sous le titre, les informations générales que l'on met au centre de la page et une explication du projet placée sous des brèves. Et en une, 4 articles sur un sujet du jour.
L'an dernier, Il Foglio avait déjà glissé quelques articles créés par l'IA dans ses pages, invitant les lecteurs à les débusquer, ceux qui parvenaient gagnaient un abonnement et une bouteille de champagne. Mais cette fois-ci, rappelle Claudio Cerasa, Il Foglio veut aller plus loin, lancer les débats sur le rôle de l'intelligence artificielle dans nos vies.
Dans chaque numéro, on demande à l'IA de simuler un débat entre un intellectuel progressiste et un conservateur sur de grandes thématiques. Par exemple, dans le premier numéro, on lui a demandé un débat sur l'idée de créer un journal avec de l'intelligence artificielle. Dans les prochains numéros, il y aura des débats sur les questions sociétales comme l'euthanasie, l'avortement, le cannabis. Ce qui est intéressant, c'est que l'on demande à l'intelligence artificielle de se critiquer elle-même. Et l'IA dit clairement qu'elle ne peut pas dépasser l'intelligence humaine.
Cette innovation éditoriale est un succès pour Il Foglio, dont les ventes en kiosque ont bondi de 60% les premiers jours. Un débat sur l'IA et ses enjeux aura lieu avec les lecteurs du journal au terme de cette expérimentation d'un mois.
S'il y a un domaine où l'usage de l'intelligence artificielle a été très largement adopté, c'est celui de la traduction. On ne compte plus le nombre d'applications qui permettent de traduire un texte ou un discours en quelques instants. Même si la traduction littéraire est encore un domaine de création protégé, les logiciels intelligents existent depuis de nombreuses années. Et à Genève, dans les agences de l'ONU, les interprètes de conférences se demandent s'ils seront un jour remplacés par des machines. C'est un reportage de Jérémy Lanche.
Aujourd'hui, on se trouve à la salle 20, c'est la salle du Conseil des droits de l'homme. Là, on voit les interprètes qui travaillent avec les 6 langues officielles des Nations Unies, qui sont l'anglais, français, espagnol, le russe, l'arabe et chinois.
Monica Varela Garcia a longtemps travaillé dans le box des interprètes. Aujourd'hui, elle dirige la centaine de personnes qui ont la lourde tâche de traduire en direct les diplomates du monde entier. Des diplomates pas toujours très à l'aise en anglais, avec parfois de très forts accents, mais que les interprètes doivent bien traduire et sans se tromper.
C'est pas des perroquets. Ils captent le sens de l'orateur et ils le mettent de la façon la plus naturelle dans la langue vers laquelle ils travaillent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans la salle, parce qu'il y a la communication verbale, mais il y a le non-verbal qui compte énormément.
Les interprètes doivent traduire 2700 conférences au Palais des Nations de Genève chaque année, ça veut dire plus de 7 par jour. En théorie, l'IA serait capable de les aider à faire ce travail. En théorie seulement, insiste Monica Varela Garcia.
L'interprétation, c'est un produit live qui ne peut pas être corrigé a posteriori. Je pense que l'humain va continuer à faire ce travail. Laisser une tâche de cette sensibilité dans les mains d'une machine, ça serait quand même dangereux.
L'IA est en fait déjà rentrée aux Nations Unies, explique la directrice de la division des conférences, Rima Alchik, mais à dose homéopathique.
Pour le français, l'anglais et l'espagnol, on utilise DeepL. C'est de la traduction automatique qui est sur des stéroïdes, mais on n'est pas encore en train d'utiliser la fonction intelligence artificielle à 100%. Il faut que les États membres soient d'accord.
Et on imagine tout de suite le bras de fer entre États pour faire adopter leur intelligence artificielle maison, ChatGPT pour les États-Unis, DeepSeek pour la Chine, avec tous les problèmes que cela pourrait créer en termes de sécurité des données, de piratage aussi. Et on en revient à la question de la dangerosité. Une erreur de traduction, ça peut arriver à n'importe qui. Mais à l'ONU, un mot malheureux peut avoir des conséquences beaucoup plus graves.
Ce ne sera peut-être pas déclencher un conflit, mais ce sera déclencher un incident diplomatique. D'où la nécessité d'avoir un œil derrière. Et pour le moment, les seules personnes avec cette expertise, c'est nos traducteurs et nos interprètes. Il n'y a personne d'autre.
Sauf qu'en période de crise budgétaire et alors que l'ONU ne sait plus trop ce que Donald Trump va verser ou pas à l'organisation, la tentation est grande d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire des économies, ne serait-ce que pour traduire les 84 millions de mots de rapports, résolutions et autres documents officiels produits chaque année. Pour le moment, les interprètes semblent épargnés par la vague de licenciements qui déferle sur les organisations internationales depuis quelques semaines.
À la une des médias européens cette semaine, la Turquie. On en parle avec Franceline Beretti. Depuis l'incarcération dimanche dernier du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, la répression s'est intensifiée contre les manifestations qui secouent le pays en soutien au principal rival du président Erdogan. Et le sujet occupe une large place dans les médias allemands.
Pour le chercheur Yasha Aydin, interrogé par Table Media, si Recep Tayyip Erdogan penche encore davantage vers l'autoritarisme, c'est parce que le moment est opportun.
Erdogan pense que la Turquie est en position favorable en politique extérieure sur la base du raisonnement suivant. Les Européens et les Américains sont en désaccord. L'Europe a besoin de moi pour sa dissuasion face à la Russie, car la Turquie a une armée forte et une industrie militaire puissante. Donc, il ne viendra aucune critique depuis l'Europe et elle ne pourra pas se mettre en travers de mon chemin.
Yasha Aydin rappelle que l'Europe a malgré tout quelques cartes de négociation en main, par exemple sur la façon dont Ankara sera intégrée dans la future défense européenne.
En Italie, Franceline, un feuilleton politico-historique a commencé le 15 mars. Il a encore des rebondissements quotidiens dans la presse.
Tout remonte à l'organisation d'une manifestation pro-européenne à Rome. Face aux tergiversations de son gouvernement, l'intellectuel de gauche, Michele Serra, a appelé les Italiens à réaffirmer leur attachement à l'Europe. Un rassemblement dénigré par la présidente du Conseil quelques jours plus tard. parce que ses participants ont fait référence au manifeste de Ventotene, un des textes fondateurs de la construction européenne. Giorgia Meloni en a cité des passages à la Chambre.
La révolution européenne, pour répondre à nos exigences, devra être socialiste. Bon, jusque-là, ok. La propriété privée doit être abolie, limitée, corrigée au cas par cas. Au moment où un maximum d'esprit de décision et d'audace est nécessaire, les démocrates se sentent perdus et la méthodologie politique démocratique...
Le psychodrame est lancé. La gauche hurle d'indignation. Le député du Parti démocrate, Federico Fornaro, est au bord de la crise de nerfs.
Utiliser la mémoire de Ventotene de cette façon, c'est outrager la mémoire d'Altiero Spinelli, considéré comme le père de l'Europe. Face à ces hommes et ces femmes, la présidente du Conseil devrait être à genoux. Honte à elle, honte, honte.
Cette scène a le mérite de rappeler ce qu'est le manifeste de Ventotene, un texte de 1941 qui pense l'Europe fédérale comme réponse au totalitarisme. Ses auteurs, Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, étaient des journalistes et des hommes politiques de gauche. Ils ont été déportés sur l'île de Ventotene par le régime fasciste de Mussolini. Ce manifeste est à la fois novateur et daté. On citait seulement les passages les plus contestables, comme Meloni, relève de la mauvaise foi intellectuelle. La plupart des médias, d'ailleurs, même de droite, ont souligné la gratuité de cette provocation. Il Foglio insiste même sur l'ignorance de Giorgia Meloni, puisqu'il y avait des choses très concrètes pour attaquer la gauche de façon plus subtile, comme le fait, par exemple, qu'elle ait voté contre le traité de Rome en 1957, contrairement à la droite. Mais avec cette attaque, la chef du gouvernement a réussi son coup. La presse a moins parlé de sa coalition qui se déchire autour du réarmement de l'Europe.
Et enfin, Franceline, en Allemagne, le nouveau Parlement s'est réuni cette semaine, c'était mardi.
Les députés élus en février se sont rencontrés pour de longs discours lors de la séance inaugurale du nouveau Bundestag. Il y a entre autres eu le discours de Gregor Gysi, le député qui siège depuis le plus longtemps à l'Assemblée. Gysi appartient à la gauche radicale, Die Linke, et aussi à l'histoire du pays. Ce député de 77 ans a commencé sa carrière politique avec le Parti Socialiste Unifié, le parti unique d'Allemagne de l'Est. Sa prise de parole a été jugée pourtant plate et décousue par la presse. Il a entre autres plaidé pour que le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, soit un jour férié.
Ce jour-là, on rappellera aux hommes qu'ils ont aussi le devoir de s'engager pour l'égalité des femmes. D'ailleurs, la proportion de femmes dans ce Parlement a encore réduit par rapport à la législature précédente.
Moins d'un tiers des 630 députés allemands sont des femmes et surtout près d'un sur quatre est à l'extrême droite. Les journaux sont unanimes. Une nouvelle ère s'est ouverte à Berlin.
Franceline Beretti pour la presse européenne. À la semaine prochaine. Depuis 2022, l'université de Metz, dans l'est de la France, propose un diplôme universitaire franco-ukrainien. Il est unique en France. Il forme une trentaine d'Ukrainiens par an en commerce international et en management, avec l'objectif de les préparer à travailler avec des entreprises françaises et européennes en vue de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Reportage à Metz, Viloen Munoz-Boileau.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a continué le projet sur le cours de modélisation.
C'est l'un des derniers cours du semestre pour les étudiants du diplôme franco-ukrainien Management et Commerce International de l'Institut d'administration des entreprises de Metz. Une formation créée en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine, comme l'explique Julien Husson, directeur de l'Institut.
Alors, l'idée est venue d'une de nos anciennes étudiantes, Violetta Moscalo, qui a vu l'opportunité de créer un diplôme pour faire venir des étudiants d'Ukraine avec un statut de réfugié. On a eu un soutien direct de toute l'équipe de la présidence de l'Université de Lorraine, y compris un soutien financier. Ça nous a permis ensuite d'aller voir les collectivités territoriales, l'Eurométropole de Metz, la région Grand Est et le conseil départemental de la Moselle. Et les trois ont donné leur go et ont accepté de cofinancer ce projet pour une durée de 3 ans.
Un soutien qui s'explique notamment par la présence historique en Lorraine d'une importante diaspora ukrainienne.
Nous avons ici 5 vagues de ce qu'on peut appeler de la diaspora. La première qui remonte à la période tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale avec des Ukrainiens qui étaient dans les camps, par exemple, comme à Ban-Saint-Jean, ici dans le territoire, et qui ensuite ont travaillé dans les mines avec les Italiens, les Polonais. Ensuite, il y a eu donc leurs enfants, nés en France, mais gardant et développant les liens avec l'Ukraine. À la fin des années 90, une nouvelle génération d'Ukrainiens qui arrivait pour les études. Cette génération maintenant qu'il y a des enfants, donc on a créé une école ukrainienne, par exemple à Metz pendant les week-ends, pour que les nouveaux Français qui sont nés dans des familles franco-ukrainiennes puissent maintenir, apprendre, connaître la langue ukrainienne et la culture ukrainienne. Et depuis 2022, donc avec l'arrivée des déplacés, des victimes de la guerre, ça fait 5 générations.
À l'époque doctorante en sciences de gestion à Metz, l'Ukrainienne Violeta Moskalou est devenue la responsable pédagogique de la formation.
Nous avons pu lancer un espace record en 2 mois, un programme de niveau Bac plus 3 qui permet de former tous les ans une trentaine de diplômés. Et donc l'objectif, c'est de former des managers parce que la guerre va s'arrêter à un moment donné et les chantiers de reconstruction vont être très importants. Il y aura sûrement des marchés, des travaux d'infrastructure pour les entreprises lorraines, les entreprises de la région Grand Est française. Et il y aura besoin des managers capables de travailler dans un milieu franco-ukrainien.
La plupart des étudiants inscrits dans le cursus ont 2 ans d'études supérieures derrière eux, mais certains sont encore plus diplômés, voire travaillés déjà en Ukraine.
On peut avoir par exemple des personnes qui ont fait polytechnique en Ukraine, mais qui quand arrivent ici, si elles ne veulent pas faire le ménage ou travailler dans la restauration, elles ont besoin d'une année de tremplin où on les aide effectivement à progresser très très vite au niveau du français. Et ils partent aussi avec quelques codes managériaux, puis surtout dans le réseau pour faire des stages, et ça leur facilite un peu, ça booste leur insertion professionnelle.
Entre 2 cours, des étudiantes ukrainiennes se retrouvent à la cafétéria. Violeta Shenkaryuk, 23 ans, fait partie de l'actuelle promotion. Originaire de Tchernitsy, à l'ouest de l'Ukraine, elle est arrivée à Metz en juillet dernier, un master en langue étrangère en poche, mais sans parler un mot de français.
J'ai décidé que je voulais essayer quelque chose d'autre et je me suis inscrite à ce programme. Le diplôme est intensif, très intensif, parce que nous avons beaucoup de cours en gestion de projet, en marketing, en finance. Nous avons beaucoup d'heures de français. Maintenant, je vais essayer de trouver un stage et après, dans quelques années, peut-être je vais retourner en Ukraine, si c'est possible.
Une 100aine d'étudiants a déjà achevé la formation. Parmi eux, les 2 tiers ont poursuivi leurs études en master en France et 1 tiers a trouvé un emploi ou créé son entreprise, comme Tetiana Poorena, 26 ans.
Et c'est Boutique Solidaire Kvitka, dont je suis très fière. Dans notre boutique, les gens peuvent trouver des chemises brodées ukrainiennes traditionnelles, sucreries, du miel, des souvenirs. Mon but est de faire découvrir notre culture parce que l'Ukraine est incroyablement riche culturellement.
Tetiana est aussi membre de l'association Échange Lorraine-Ukraine qui organise des événements culturels, collecte des fonds et envoie de l'aide humanitaire en Ukraine. Quant à l'après-guerre,
où je vais retourner en Ukraine, où je vais travailler ici en France, mais avec l'Ukraine.
Comme elle, 80% des Ukrainiens bénéficiaires de la formation sont des femmes, car il est presque impossible pour les hommes de plus de 18 ans de quitter l'Ukraine en raison de la mobilisation mise en place après l'invasion russe. Malgré tout, les candidats au programme sont chaque année très nombreux. La prochaine rentrée est prévue en octobre 2025.
À la réalisation, Théo Raison. Accent d'Europe est aussi en podcast sur l'appli Pure Radio et toutes les bonnes plateformes. Mais tout de suite, grand reportage nous emmène en Égypte. Vous êtes bien sur RFI.